Quand j'ai envoyé les petits schémas que vous avez devant vous dans le livret, j'ai reçu un très gentil coup de fil de la comité. On se demandait juste par rapport au deuxième titre, si tu le voulais vraiment comme ça. Quelques-unes ont remarqué que ce n'est pas du très bon français. J'assume. J'ai insisté, tout en sachant que c'est un peu bizarre, mais parce que je trouve que c'est exactement ce que Paul nous dit au Colossiens chapitre 2. Lui aussi, il a déformé la grammaire pour nous interpeller. On a déjà vu au chapitre 1 que Paul pousse les limites du bon grec pour nous dire que Jésus est vraiment tout. Toute la plénitude, dit Paul. Ça mérite un appel du comité, non? Non, ça veut dire tout. C'est un adverbe de quantité qui exprime la totalité. On ne peut pas avoir un peu de tout. Mais Paul sait que quand on dit que Christ est tout, on a besoin d'être secoué pour voir que tout veut vraiment dire tout, sans exception. Et en arrivant au chapitre 2, nous voyons pourquoi il avait montré la toute plénitude du Christ. Ce n'est pas simplement pour qu'on reste bouche bée devant ce Christ merveilleux. Ça nous fait du bien de le regarder, c'est vrai. Mais c'est parce que si Christ est tout, alors il est tout ce qu'il nous faut. Si Christ est tout, alors il est tout ce qu'il nous faut. Si on met le message de Colossiens 1 et 2 ensemble, ça donne ceci. Parce que Christ est tout, nous avons tout. Parce que Christ est tout, nous avons tout. Regardez dans le texte qu'on a lu pour voir ça avec moi. Chapitre 2, versets 9 à 10. Un peu le cœur de notre texte. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En ce moment, il y a une publicité en France pour un fournisseur d'Internet, de télévision, de téléphone, qui s'appelle Free. Ça existe en Belgique aussi? Free? Non, peut-être pas. Non, Free, pas frites. Non, je sais qu'il y en a. Très bien. Le slogan sur toutes les affiches, c'est « Il a Free, il a tout compris. » Il a Free, il a tout compris. Joli jeu de mots. Ils fournissent tout, donc vous avez accès à tout. Alors, essayons un slogan pour Colossiens. Il a Jésus, il a tout compris. Non, ça ne sonne pas de la même façon. Mais c'est exactement le message de Colossiens. Et tout comme Paul a empilé les phrases pour dire que Christ, il est vraiment tout, maintenant il empile les phrases et les images pour montrer qu'il est vraiment suffisant. Vraiment suffisant. Suffisant aussi, c'est un adjectif définitif qui ne peut pas être comparatif. Quelque chose est ou n'est pas suffisant. Ce n'est pas du bon français. Mais Paul nous remet en question. Vous avez tout pleinement en Christ, il dit. Paul nous interpelle. Votre Christ est-il vraiment suffisant? Est-il suffisamment suffisant? Si vous n'aimez toujours pas mon titre, ce n'est pas grave, mais vous allez le retenir, donc ça c'est très bien. Relisons versets 6 et 7, nos versets résumés. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions que vous ont été données et abondé en actions de grâce. Le moyen de salut, accueillir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, est aussi le moyen de grandir dans la foi. Nous ne passons pas à un autre enseignement, à un autre niveau. On a vu les deux images comme un arbre ou un bâtiment solide. Mais, selon verset 4, il y a un vrai danger. Paul parle des discours séduisants. Il y a un vrai risque pour chacune de nous. Un risque que l'on se dise que le message de Christ, c'est très bien pour commencer la vie chrétienne, mais ne suffit pas pour notre marche avec lui. Nous pouvons penser qu'on a besoin de quelque chose de plus, un supplément, un complément, peut-être de certaines règles, des traditions, des cérémonies ou d'autres expériences spirituelles pour compléter. Et Paul est clair là-dessus. Complément veut dire concurrent. Complément veut dire concurrent. Au chapitre 10, vous avez peut-être remarqué, on est face à une petite énigme exégétique. C'est très probable, en lisant ces versets, que Paul vise certains enseignements spécifiques de l'époque. Il y a un vocabulaire un peu étrange qui reflète sans doute certaines idées chères des groupes à l'époque à Colosse. Par exemple, au verset 8 et 20, il parle des principes élémentaires, ou c'était rudiments dans la traduction qu'on a eue tout à l'heure. Et à plusieurs reprises, il fait référence aux puissances, domination et autorité, vous avez peut-être remarqué. Trois fois, il parle de ça. Au verset 16, il évoque une pratique liée à la nouvelle lune. Qu'est-ce que c'est que ça? Et au verset 18, il parle d'un culte des anges. Bizarre. Notre curiosité est piquée. Quelle est la philosophie trompeuse qui menace les Colossiens? Il y en a une ou deux Et c'est très difficile à déceler. Les théologiens ont essayé à démasquer le formalisme, traditionnalisme, truc-machinalisme, je ne sais pas. Mais tout est tellement mis ensemble et confondu dans les versets que c'est très difficile de voir ces idées distinctes. Mais après tout, souvent les philosophies humaines ne sont pas cohérentes. Et je connais aussi mon cœur. Je suis tout à fait capable d'embrasser le légalisme avec un bras et le laxisme avec l'autre en même temps. Nous ne sommes pas cohérents. Et donc, ce n'est pas surprenant qu'on trouve la même chose chez les Colossiens. Donc, au lieu d'essayer de dénicher les contours précis des enseignements à l'époque, on va se concentrer plus sur les convictions de Paul par rapport à Christ et voir comment il démontre la toute suffisance de Christ face à tout régime complémentaire, entre guillemets. D'abord, au verset 11 à 14, on trouve que Christ est tout ce qu'il faut, tout ce qu'il nous faut pour vaincre le péché ou pour être juste. J'ai changé un tout petit peu par rapport à ce qu'il y a dans le livret. Christ est tout ce qu'il nous faut pour être juste. Paul parle de la circoncision dans ces versets. C'est un peu éloigné de notre monde, probablement. Donc, il faut essayer de comprendre ce que cette cérémonie signifiait. Et en résumé, c'est l'appartenance au peuple de Dieu par la pureté. L'appartenance au peuple de Dieu par la pureté. Donc, il y avait un rite de purification où enlever un bout de peau signifiait un sacrifice de purification. Et maintenant, le petit garçon fait partie du peuple de Dieu. C'est concret, rassurant, douloureux probablement, mais concret et visible. Je suis marqué, j'appartiens à Dieu, je suis pur. Imaginons l'église de Colosse dans le groupe de jeunes. Deux copains de 17 ans, Siméon et Nicolas. Siméon est le fils aîné d'une famille juive qui avait cru en Jésus, donc circoncis, et parfois un peu fier de son appartenance physique au peuple de Dieu. Il risque de s'appuyer sur sa circoncision pour un complément d'assurance. Il a bien compris que c'est par Christ qu'il appartient au peuple de Dieu et qu'il est pur. Mais bon, c'est chouette aussi d'avoir cette signe physique, d'être circoncis pour montrer qu'il fait vraiment partie de son peuple, qu'il est accepté. Rassurant, non? Et bien sûr, d'avoir un changement concret, physique, les jours où on ne se sent pas très chrétien, c'est pas mal. Pour son copain Nicolas, c'est un peu dur. Dans sa famille, sans arrière-plan juif, il n'y a pas de cérémonie, de rite, de signe physique, de badge, d'appartenance à Jésus. Son pasteur lui dit qu'on n'en a plus besoin, que Christ nous change à l'intérieur et que c'est ça qui compte. Mais ça ne se voit pas. Il croit avoir cru en Jésus, mais n'a pas de certificat, pas de signe physique. Il est un peu jaloux de Simeon avec son assurance qu'il appartient à Dieu. Bon, tout cela peut paraître un peu loin pour nous, mais mon fils, Nicolas, va changer d'école cet été. Il quitte son école où la moitié de sa classe est juive, avec toutes les fêtes, les rites, lui le seul protestant, et il va à un collège catholique où il sera très probablement le seul protestant. Tous ses camarades auront fait leur première communion. On va lui poser la question, tu l'as fait toi? Pourquoi pas? Et puis ce sera le moment pour la profession de foi. Grosse fête, cadeau, approbation de l'Église. Et puis la confirmation, où le prêtre va mettre ses mains sur les têtes des jeunes pour dire « Recevez l'Esprit Saint ». Encore grosse fête, cadeau, approbation de l'Église. Je n'ai pas du tout envie de critiquer ces cérémonies ou de parler des détails. J'ai récemment assisté à une profession de foi et j'ai trouvé bien sur plein d'égards. Mais je pense à Nicolas et je pense à vos fils, vos filles, vos nièces, vos petits-enfants, à vous-même. Comment ne pas remettre en question la toute suffisance de Jésus-Christ quand on est face à des systèmes avec des rites, des badges physiques, des étapes reconnues où on peut dire « Regardez, je suis marqué, j'appartiens à Jésus. » Verset 11. C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Pour le dire de façon un peu grotesque, je profite qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes dans la salle, la circoncision de l'alliance avec Moïse n'allait pas assez loin. On enlevait un petit bout de peau. La circoncision de Christ est beaucoup plus violente. Il enlève tout. On participe à sa mort. C'est la différence entre mettre son grand orteil dans le bain ou sauter dans la mer. Au verset 12, il parle du baptême. Le baptême est une aide visuelle qui nous parle de la mort. Nous sommes ensevelis avec lui par la foi et puis ressuscités avec lui et en lui. Nous descendons et nous revenons à la vie. En Jésus, par la foi, nous sommes circoncis jusqu'au bout. Notre nature pécheresse est dépouillée, morte. Nous habitons dans un quartier à Paris où il y a beaucoup de catholiques pratiquantes. Donc nous réfléchissons en tant qu'Église à la manière dont nous pouvons accueillir nos amis du quartier dans notre façon de faire, la forme de nos cultes, pour mieux mettre à l'aise et accueillir les gens avec cet arrière-plan-là. Une famille qui vient depuis 3 ans à l'église, des très bonnes amies, ressent une pression énorme de la part de leur famille par rapport à leurs enfants qui passent à côté des étapes, des cérémonies catholiques. Ça vient des grands-parents, des amis, mais aussi de l'intérieur, je pense. Un souci de l'intérieur. Et s'ils étaient en train de rater quelque chose? Peut-être c'est une question pour certaines ici. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a une pression familiale par rapport aux étapes catholiques. J'avoue qu'il y a un an, j'ai un peu honte de le dire, mais j'ai même posé la question à mon mari. Et si on inventait une cérémonie pour donner un peu le même sentiment à cette famille? En étudiant ce texte, les semaines récentes, je me suis rendu compte que donner un substitut de badge physique auquel on peut s'accrocher ne pourrait pas aider cette famille. La seule solution, c'est de leur montrer, et encore, combien Christ est tout ce qu'il nous faut. Au verset 13, on voit que non seulement Christ est la vraie circoncision, mais il est aussi celui qui donne le pardon total. Voyez la symétrie du verset 13. Vous êtes mort par vos offenses. Donc c'est seulement par le pardon de ces offenses qu'on peut passer à la vie. Verset 13 à la fin, il vous a rendu à la vie avec lui en faisant grâce pour toutes nos offenses. Péché mort, grâce et donc pardon et donc vie. La mort est la conséquence de nos offenses. Dieu a dit au Genèse 2, le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. La désobéissance à Dieu nous coupe de lui, la source de la vie. La mort spirituelle est immédiate. Adam et Ève ont été chassés de la présence de Dieu. La mort physique est inévitable et nous sert de signe de cette mort intérieure, cette mort plus importante quelque part. Mais des millénaires plus tard, dans un autre jardin, un homme a choisi l'obéissance jusqu'à la mort. Il a été chassé de la présence de Dieu. Il a encaissé les conséquences de nos péchés. Et donc, il est le seul qui a le droit de nous faire grâce. Il a payé pour nous. L'année dernière, on a passé des vacances avec une autre famille dans le sud de la France. Et le moment venu de repartir, on est passé par la station de service pour faire le plein avant de prendre l'autoroute vers Paris. Philippe et sa famille sont passés en premier à la sortie de la station et puis c'était notre tour. On s'arrête devant la fenêtre pour régler et la caissière nous indique de passer. Edouard baisse sa fenêtre pour lui expliquer qu'on a fait le plein, c'est une grosse voiture, il faut qu'on règle avant de partir. Et elle lui répond, « Non, non, c'est payé, votre ami a déjà réglé pour vous deux. » Philippe était en train de rigoler dans sa voiture devant. C'était un tout petit exemple de ce que Jésus a fait. Il a payé pour toutes nos fautes. Alors, il peut nous faire grâce pour tout. C'est déjà réglé à l'avance. Il a payé. Peut-être que vous avez un petit soupçon en pensant qu'il reste un bout à régler quand même. Qu'un jour, vous verrez Dieu face à face, il va vous dire « 1988, à Bruxelles, à la fête de ton collègue Grégoire, j'ai pas oublié. » Tu sais de quoi je parle. Ou peut-être que les choses tournent mal dans votre vie professionnelle ou sentimentale et que vous vous dites « c'est ce que je mérite pour ce que j'ai fait l'année dernière. » Écoutez bien, il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Tout veut dire tout, le message de Colossiens. Les offenses du passé qui nous reviennent en cauchemar, les offenses récurrentes, les offenses privées, les offenses publiques, les offenses futures, on n'arrivera jamais à épuiser son pardon, heureusement. Même les offenses qu'on ignore, on est tellement chargé de péché. Toutes. Il ne reste rien à payer. C'est déjà réglé dans la totalité. Et en plus, il a annulé la loi qui condamne, au verset 14. Verset 14, Paul utilise un mot technique, traduit « acte » dans certaines Bibles, je pense, dans la version qui a été lue. Et c'est un mot qui désigne un document écrit qui constitue une reconnaissance de dette, un avoir, signé avec pénalty précisé en cas de défaut. Ce n'est pas littéralement la loi qui est contre nous. Paul dit « la loi, elle est bonne ». Non, c'est la loi en tant que miroir qui nous montre ce qu'on doit à Dieu et la pénalty pour notre défaut. Qu'est-ce qu'on doit à Dieu? Lisons juste le résumé de la loi de Moïse, qu'a cité Jésus d'ailleurs. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Quand on lit ces mots, quand je lis ces mots, on est à la fois enthousiaste. « Oui, c'est ce que j'ai fait, j'ai été créé pour ça !» Mais on est également dégoûté, écrasé. « Je suis si loin !» Quel verset encourageant. Non seulement Jésus nous a pardonné tous nos péchés, mais il a aussi pris la loi qui condamne, ce mot de reconnaissance de nos dettes, et il a fait deux choses avec. Il l'a effacé comme un tableau blanc et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il n'y a plus de traces écrites. Personne ne peut nous accuser maintenant. Il y a quelques mois, le film Les Misérables, après le livre de Victor Hugo, est sorti, est arrivé au cinéma. C'est une histoire remarquable d'un point de vue chrétien parce que ça montre vraiment deux façons de vivre, par la loi et par la grâce. Et on le voit dans la vie des deux acteurs principaux, Jean Valjean, qui est le condamné, et Javert, le policier. L'histoire débute, pour celles qui ne connaissent pas, par la libération de Jean Valjean après une peine de 19 ans de prison de bagne. Et en liberté, c'est impossible de faire un nouveau départ. Parce que dans chaque ville qu'il traverse, il est contraint de faire connaître son statut d'ancien prisonnier, d'ancien bagneur, à la mairie. Il a payé pour son crime, mais la loi l'a marqué. Il est rejeté partout et seul Monseigneur Myriel, un évêque, l'accueille pour le gîte et le couvert. Jean Valjean, épris de haine et frappé d'injustice, vole l'argenterie de l'évêque et s'enfuit par la fenêtre. Lorsqu'il est arrêté et ramené par les gendarmes chez Monseigneur Myriel, l'évêque leur dit « Non, 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 vous êtes trompés. Je lui avais offert l'argenterie. Et heureusement que vous l'avez ramené parce qu'il a oublié ses deux chandeliers en argent massif. Prenez-les aussi !» Il lui pardonne et le sauve de la condamnation pour récidive. Valjean mérite la condamnation, mais il reçoit la grâce. Il est pardonné par le prêtre et on lui offre un cadeau de grande valeur en plus. C'est le cœur du livre et du film, parce que cette grâce va le transformer. Il prend une autre identité, déterminé de vivre pour le bien et d'aider les autres. Mais il est poursuivi. Javert, le gendarme, vit pour la loi, la justice. Tout est noir et blanc. Il n'y a aucune place pour la compassion, la transformation, le pardon. Il est torturé par son désir de trouver Valjean et lui donner ce qu'il mérite. La loi est claire. Il doit retourner en prison pour avoir manqué à sa parole. À travers cette histoire, Victor Hugo nous fait sentir combien la condamnation de la loi peut être lourde, très lourde à porter. Et nous voyons aussi à quel point la grâce de Jésus-Christ est transformatrice. Il nous a tout pardonné et il nous a fait grâce. Et le contraste avec ce qui se passe pour Valjean, la loi qui condamne a été effacée et détruite, clouée à la croix. Il n'y a pas de liberté conditionnelle. Le casier judiciaire est vierge. On ne peut pas être poursuivi ni accusé. Donc, dit Paul au verset 16, ne vous laissez pas juger. Il y a toujours un Javert. Dans votre famille, parmi vos collègues, dans vos églises et surtout, surtout, dans votre tête. Nous, les femmes, nous sommes les championnes pour croire que notre mari est en train de nous juger tandis qu'il est simplement en train de revivre le but de PSG contre Barcelone de la veille. Cependant, que nos javerts soient réels ou imaginaires, nous sommes appelés à ne pas prêter attention. Verset 16. Quelqu'un pense que vous êtes une mauvaise chrétienne parce que vous ne portez pas de jupe à l'église. Quelqu'un pense que vous êtes une mauvaise chrétienne parce que vous ne fêtez pas Noël, ou vous fêtez trop Noël, ou vous mangez gras le vendredi saint, ou vous êtes végétarienne, ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas important. Toutes ces histoires de manger, boire, fêter, respecter certains jours, des rites, des rituels, n'ont plus d'importance. Oui, il y avait une certaine importance avant, c'est vrai, mais Paul dit, verset 17, « C'était l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. » Donc, ne courez pas après des ombres. Jésus est la réalité, le corps. Les cérémonies et fêtes et pratiques religieuses de l'Ancien Testament n'étaient que des ombres par rapport à cette réalité. Jésus l'a dit lui-même à maintes reprises. Il a dit « Le Fils de l'homme est maître du sabbat ». Le dernier jour de la fête des tabernacles, Jésus a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. faisant écho à la provision miraculeuse de l'eau dans le désert, tant des tabernacles. Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jésus est le vrai sabbat. Il est l'accomplissement de la fête des tabernacles. Il est le vrai agneau pascal. Il est le vrai temple. Il est la vraie circoncision, comme on a déjà vu. Parfois, je joue avec mes enfants en créant des ombres rigolos sur le mur. Un lapin, un loup, c'est à peu près tout, parce que je n'ai pas une répertoire très, très importante. Avec les tout-petits, souvent, ils essaient de rattraper les ombres sur le mur. C'est très, très amusant. Ils n'ont pas compris que c'est impossible, car il n'y a rien de substantif à attraper. Ne soyons pas comme les tout-petits qui essaient d'attraper les ombres. Les rites, la circoncision, les fêtes, tout cela a l'apparence du concret, physique. Mais c'est l'inverse. Ce sont des ombres. La réalité solide et substantive, c'est Christ. On passe au deuxième, à la deuxième grande affirmation de Paul dans ce texte, et c'est plus court que la première pour vous rassurer, si vous avez faim. Deuxièmement, Christ est tout ce qu'il nous faut pour la croissance spirituelle. Christ est tout ce qu'il nous faut pour la croissance spirituelle. Et on revient au verset 15. Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Christ a vaincu les puissances spirituelles. Nous avons, je pense, moins l'habitude de penser à la croix dans ces termes. La croix comme moment de triomphe, de victoire spirituelle. Parfois, on parle de la résurrection dans ces termes, mais un peu moins la croix, la mort de Jésus. Il y a pourtant certains théologiens qui mettent énormément d'accent sur cette victoire à la croix. Ils y trouvent souvent une façon de contourner l'idée de la croix comme punition subie par Jésus à notre place, qui n'est pas très politiquement correcte. Mais dans ces versets, c'est évident que la victoire dépend de ce qui procède au verset 13 et 14. Le dépouillement total est parce que ce qui leur donnait pouvoir sur nous a été enlevé. Qu'est-ce qui leur donnait ce pouvoir ? Leur arme, si on veut, c'est la loi face à notre péché qui mérite la mort. Deux éléments, loi et péché, et une conséquence, la mort. Paul dit au 1 Corinthiens 15, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et écoutez Hébreux 2, 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Les puissances spirituelles, le diable et son équipe n'ont que cette arme-là contre nous. Et comme mes fils connaissent par cœur, dans une bataille à l'épée, quand on arrive à désarmer son ennemi, il est vaincu, c'est fini. L'image d'une humiliation publique était bien connue à l'époque avec les spectacles romains, les prisonniers de guerre menés en procession, etc., ridiculisés, humiliés. Et c'était justement au moment où les puissances spirituelles semblaient gagner, le Fils de Dieu cloué à la croix, victime d'injustice, qu'elles ont été désarmées et donc vaincues. Ces puissances existent encore, jusqu'au jour où Dieu les détruira, mais elles sont totalement impuissantes, soumises à Christ. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ne connaissent pas ces versets, ces vérités, et qui sont toujours dans la crainte par rapport aux puissances spirituelles. C'est un peu comme le soldat japonais découvert sur une île japonaise en 1972. toujours convaincu qu'il était en guerre. Il ne savait pas que son pays n'était plus en guerre depuis 29 ans. Je vous donne un exemple dans notre église. Une femme qui a été abandonnée par le père de ses trois enfants, ses trois filles. Il est parti 2 mois après la naissance de la troisième, la toute petite Grace. Son entourage n'arrête pas, l'entourage de ma copine, n'arrête pas de lui dire que cet homme a été touché par un sort, qu'il y a de la magie qui met en péril sa vie de famille, qu'il faut faire appel à des pratiques spirituelles pour enlever le sort. Elle croit en Jésus, mais les commentaires de son entourage la découragent, la font douter. Ai-je besoin d'autre chose que Jésus pour faire face aux puissances spirituelles? Je lui dis et lui redis, Jésus est victorieux. Les puissances et autorités spirituelles ont été désarmées et humiliées. Elles sont soumises à Jésus-Christ. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Alors, Paul nous exhorte au verset 18 à 19 à faire très attention. Il y a un danger qu'un enseignement axé sur les anges et les puissances peut nous paraître très spirituel. Qu'on peut être déstabilisé au point de perdre notre héritage, le prix de la course. Il y a des personnes partout qui sont fascinées, passionnées par autre chose que Jésus-Christ, mais des choses qui semblent spirituelles et humbles. Les anges, les esprits, la spiritualité bouddhiste, la spiritualité celtique, les techniques spirituelles, les miracles, les philosophies. Et Paul utilise une image forte pour avertir les Colossiens du danger. On a eu l'arbre, le bâtiment. Maintenant, on a le zombie. Un corps sans tête, verset 19. Et sans être attaché au chef, à la tête, ça veut dire, il n'y a aucune chance de croître, de mûrir. Ne perdez pas la tête. Versets 18 et 19. Christ est la tête, et si on regarde ailleurs, on perd la connexion vitale. Le seul moyen par lequel Dieu donne l'accroissement. Toutes ces choses qu'on a mentionnées, les philosophies, les pratiques religieuses, ça a l'air très humble, très spirituel. Mais toute approche qui n'est pas centrée sur Jésus-Christ n'est pas spirituelle. Voyez les contrastes au verset 18 et 19 dans le texte. L'apparence est la réalité. L'apparence est d'une profonde humilité et manifeste par un culte rendu. Mais la réalité, il est enflé d'un vain orgueil, par ses pensées charnelles. Pas spirituelles, mais charnelles. Pas humbles, mais orgueilleux. Toute spiritualité, toute pratique qui n'est pas focalisée sur Jésus-Christ va alimenter notre orgueil. Si on est passionné, qu'on soit passionné par lui. Si on rend un culte, qu'on le lui rende. Si on s'abandonne à quelque chose, qu'on s'abandonne à lui seul. Il paraît que les puissances spirituelles avaient un rôle de médiation dans l'enseignement de cette philosophie qui menaçait les Colossiens. Paul ne conçoit pas qu'on puisse accorder aux membres inférieurs une importance seulement due à la tête. J'ai une amie qui cherche un nouvel appartement en ce moment à Paris, ce qui n'est pas évident, et elle m'a dit qu'elle a demandé de l'aide à Saint-Joseph, qui est censé, dans certaines croyances catholiques, il est censé aider pour les besoins matériels. Et donc elle espère qu'il puisse intercéder auprès de Dieu pour elle. Mais j'ai aussi longuement discuté avec un cousin de mon mari, lui d'arrière-plan protestant, qui a été persuadé par un livre sur le culte des anges, que chacun a son ange personnel, qu'il faut l'identifier, qu'il faut commencer à communiquer avec. Et lui, il va chez un énergéticien, je ne savais pas que ça existait, un énergéticien qui lui sert de médiateur spirituel. C'est dangereux. Dans ces deux cas, on accorde aux membres inférieurs une importance qui n'est qu'à Jésus seul. On lui vole sa place. Même si ce n'est pas pour élever les puissances néfastes, mais pour accorder trop d'importance à des anges, trop d'importance aux saints du passé, trop d'importance aux pasteurs ou aux enseignants contemporains aussi. On lui vole sa place et on risque de perdre la nôtre. Paul nous présente une conclusion surprenante au verset 20 à 23, et je pense choquante à l'époque. Que ce soit les pratiques religieuses juives, la circoncision, les sabbats, les fêtes, les rites, ou que ce soit les spiritualités païennes, le culte des anges, les philosophies humaines, toute pratique religieuse humaine est sans valeur réelle. Il met tout ensemble à la fin. C'est la conclusion de Paul au verset 23. Les règles, les contraintes, les rites, on trouve ça dans tous les systèmes religieux du monde. Ils ont une apparence de sagesse, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Aïe, j'aurais pas dû dire ça aussi franchement si c'était pas dans la parole de Dieu. Cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Nous avons un livre chez nous très utile qui s'appelle « Le guide de survie pour les parents ». Il y a un chapitre sur les accidents et les bobos où il conseille aux parents d'avoir une crème magique, n'importe laquelle, pour soigner les petites blessures. Rien de médical, entièrement psychologique, psychosomatique. Et placebo version enfant. Chez nous, ça marche à merveille. Cette crème ne fait rien, absolument rien, objectivement. Mais qu'est-ce qu'on se sent mieux? Voilà les pratiques religieuses humaines. Une crème magique. Ça ne change strictement rien, mais qu'est-ce qu'on se sent mieux? C'est fondé sur les doctrines des hommes, selon verset 22, et ne sert qu'à satisfaire la chair, verset 23, une crème magique spirituelle. Les jeûnes et prières, les règles, les vœux, les pèlerinages, les compagnies d'évangélisation même, qu'est-ce qu'on se sent bien après? Mais toutes ces choses peuvent être faites pour nous et donc nous éloigner du Christ. Que ce soit les traditions religieuses ou les philosophies spirituelles, en Christ, nous sommes morts à tout autre moyen qui prétend de nous approcher de Dieu. Il est le seul chemin efficace et fiable. Il le redit au verset 20. J'espère que nous avons toutes vu à quel point Colossiens 1 et Colossiens 2 sont étroitement liés. Si nous avons un Christ version 50 grammes, on va regarder ailleurs pour compléter les pratiques spirituelles, religieuses, des rites, des règles, etc. Mais si nous avons un Christ version colossien, colossal, j'ai envie de dire, nous ne risquons pas de chercher ailleurs. Complété, il ne reste plus de place. J'ai parlé tout à l'heure de la famille avec qui on est parti en vacances, qui avait réglé notre plein d'essence. Avant de partir en vacances avec cette famille, je pensais que notre voiture, avec tous nos bagages, nos quatre enfants, le pique-nique, etc., était vraiment remplie. Mais il y a la voiture bien remplie version Nelson, c'est ma famille, et la voiture bien remplie version Moore. Je n'ai jamais vu rien de pareil. Il y a les sacs sous les sièges, autour des enfants, sur les genoux, sont contre les vitres, comme ça. Pour eux, rempli veut dire qu'il ne reste plus en un centimètre. C'est ce que Paul veut pour nous, pour chacune de nous. Que notre Christ soit tellement grand, tellement tout, qu'il ne reste plus un centimètre pour autre chose. Paul dit, verset 9 et verset 10, on revient, Christ a tout, il est tout, et donc nous avons tout en lui. Il est totalement et pleinement suffisant. Je suis tellement encouragée de venir ici, de voir toutes ces femmes qui ont envie de creuser la parole de Dieu, l'Évangile, Je suis ravie qu'on ne m'a pas demandé de parler sur un titre, un sujet accrocheur. Comment être une bonne maman, comment être une femme super, comment élever les enfants, même comment prier, comment faire mieux dans sa vie chrétienne. Ces sujets nous attirent parce que ça joue sur notre culpabilité. On sait qu'on n'y arrive pas. Mais nous en avons assez des comment faire, je pense. On peut être incollable sur la théorie et incapable de la mettre en pratique. Ce qu'il nous faut vraiment, c'est regarder à Christ. Ce qu'il nous faut, c'est creuser son évangile. C'est une idée merveilleuse de choisir de consacrer ces deux séances ce matin à lui. À voir combien Christ est grand et suffisant. La clé pour notre croissance spirituelle, c'est lui et lui seul. Nous sommes transformés en lui. Si nous regardons à nous-mêmes comment mieux faire, ce qui ne va pas, on risque de tomber dans les pratiques religieuses qui sont inutiles. Si on regarde à Jésus-Christ, il remplit nos cœurs. Il n'y aura pas de la place pour autre chose. Il est vraiment grand. Il est suffisamment suffisant. Prions pour chacune de nous que nous restions fermement attachés à lui et à lui seul jusqu'à nos 60 ans, nos 70 ans, nos 90 ans, j'ai le droit de dire ici? 90 ans. Je vais prier pour nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir tout donné en toi. C'est facile ici, quelque part, de dire oui, tu es suffisant. Mais demain, après-demain, les mois à venir, face à des commentaires d'autres personnes, face à nos Javert intérieurs aussi qui nous jugent, c'est plus difficile. Nous avons besoin de ton aide. Merci parce que tu nous habites par ton esprit, l'esprit de Jésus-Christ lui-même. Nous te demandons par ton esprit de nous aider à garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ et lui seul. À chaque fois qu'on soit tenté de regarder à nous, comment on fait, comment on ne fait pas, aide-nous à nous retourner vers Jésus-Christ. Je prie pour chacune des femmes ici, pour moi-même aussi, que tu nous protèges de ces discours séduisants et que tu nous affermis en Christ. Amen.